Les Colibris d'Alès présentent le chant des colibris.
En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Le chant des colibris. Une émission de Céline Elodie, enregistrée en public au Jeudi des Colibris à Alès. Merci d'être là en ce joyeux printemps. Très agréable, là, ça y est, on sent la chaleur arriver. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que moi, mon sujet de prédilection, c'est la transition. C'est aussi pour ça que je m'investis avec les colibris. La transition sous toutes ses formes. Comment on fait pour créer un monde plus humain, plus respectueux du vivant, qui soit joyeux et qui corresponde plus aux rêves que l'on a? C'est une vaste question et aujourd'hui on va se pencher sur un sujet fondamental, sur cette question de la transition. On essaye de créer un nouveau monde, d'accord, mais par contre au niveau éducation, comment ça se passe? Parce que enseigner des préceptes d'hier aux enfants de demain, ça fait juste recommencer les cycles éternellement et retourner dans les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup de critiques de l'école, beaucoup de choses qui émergent du point de vue de l'éducation alternative, puisque les enfants montrent une sensibilité de plus en plus grande et du coup ne rentrent plus dans les cases de l'école, ne sont beaucoup moins dociles qu'avant. Et donc, ils nous amènent à nous poser bien des questions. Et alors aujourd'hui, on va aller plus loin que la question de l'éducation alternative. On va carrément se demander, y a-t-il des alternatives à l'éducation, en fait ? Voilà. Et pour parler de ça, on a invité donc Minou Monta et Daniel Julien. Bonsoir à vous, merci d'être là. Et alors vous faites partie du CREA, c'est le Cercle de Réflexion pour une Éducation Authentique. C'est un mouvement qui a été initié par Jean-Pierre Lepris.
Oui, tout à fait.
Qui a été prolongé ensuite par le Groupe de Réflexion pour Éduquer et Apprendre, le GREA. Il y a tous les documents qui sont ici derrière pour notre public, qui pourront lire les documents. Et oui, chers auditeurs, vous avez encore une fois loupé les Jeudis des Colibris. C'est le troisième jeudi du mois à la boutique solidaire de Rochebelle à Alès. Vous allez finir par le comprendre et par nous rejoindre. Alors, Minou Monta, elle est osiricultrice. Non, cela n'a rien à voir avec les huîtres, c'est à voir avec l'osier. Elle plante de l'osier et elle est vannière, donc elle fabrique des paniers en osier. Elle était également ornithologue et après avoir passé longtemps à étudier les oiseaux, elle s'est penchée sur la question des relations humaines et plus particulièrement le rapport aux enfants. Et c'est pour ça donc qu'elle réfléchit beaucoup sur la question de l'éducation. Daniel Julien, toi tu es ancien ingénieur agronome et paysan boulanger.
J'ai été paysan boulanger pendant un peu plus de 8 ans.
Ouais.
Et là je suis en train de me reconvertir.
Voilà, et là tu es dans une reconversion plutôt vers les soins à la personne.
Voilà, c'est ça.
Dis donc, que de cordes à ton arc. Voilà, et tu fais partie du noyau dur, donc du GREA, le groupe de réflexion pour éduquer et apprendre. Alors les amis, la première question, ce fameux GREA, ce groupe de réflexion, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que vous y faites, Minou?
Alors, donc c'est une association, mais ça a vraiment juste ça nous sert juste pour avoir en fait un compte bancaire, on va dire, et organiser des manifestations. C'est surtout la possibilité de se retrouver autour de la réflexion, parce qu'on a une espèce de recette. On se dit que pour avoir une action juste, ça provient d'une pensée juste. Du coup, là, eh ben, on se retrouve pour réfléchir et mettre un peu de conscience sur nos actes. Donc voilà, on organise des rencontres annuelles thématiques autour notamment de l'éducation. Donc on a traversé éducation et socialisation, éducation et domination, éducation. On travaille aussi autour de la lecture.
Tu pourrais nous présenter ce fameux Jean-Pierre Lepris, qui est quand même un phénomène et qui est à l'initiative du CREA.
Oui, alors Jean-Pierre Lepris, en fait, c'est un inspecteur hors classe qui a travaillé sur 4 continents. Pendant plus de 50 ans, il était à l'éducation nationale, donc d'abord instituteur et puis inspecteur. Et il s'est dit, maintenant, avec tout ce recul, si j'avais su ce que je faisais, alors que je le faisais vraiment de manière zélée et le mieux du monde, eh ben, je ne l'aurais pas fait.
Ah oui.
Du coup, il a commencé à écrire, et notamment ses premières lettres, les Léa, là, les lettres, les newsletters en fait, du CREA, pour un peu partager sa pensée. Donc là, ça fait 10 ans que ça existe, il continue à écrire. Et on voit un peu l'évolution de sa pensée qui est vraiment innovante par rapport à ce qu'on entend autour. Et il continue à écrire. Voilà.
Donc c'est un monsieur qui a passé toute sa carrière dans l'éducation nationale, hein, c'est ça ? Pas seulement en France, mais sur les 4 continents, il a beaucoup bougé. Et il a été consultant en éducation, c'est ça
que
tu me disais ?
Oui, auprès de l'UNESCO. Ouais.
Auprès de l'UNESCO, donc vraiment, il a baigné vraiment dans le monde de l'éducation toute sa vie. Et aujourd'hui, il dit, si c'était à refaire, je ne referais pas du tout ça.
Voilà, du coup, il a envie de transmettre, parce qu'en fait... il s'est posé pendant 50 ans la question de savoir comment mieux éduquer, et finalement pas vraiment celle de mais en fait qu'est-ce qui se joue dans l'éducation et pourquoi il faudrait éduquer.
Mmh. Et alors aujourd'hui, que c'est un vieux monsieur, hein. Voilà. Tout est relatif, mais en tout cas, voilà,
il avait besoin
sa carrière est derrière lui, on va dire, il a une autre vision et il remet en question vraiment le fait d'éduquer.
Voilà, alors en fait, moi, ça m'a pris, donc je vais parler de moi maintenant.
Ouais, merci, bah oui, avec plaisir.
Donc ça m'a pris au moment en fait où j'attendais ma fille, et donc je cherchais une autre manière en fait d'accueillir un nouvel être. Donc, comment être en relation le plus juste possible. Donc, au début, j'ai cherché vers des éducations alternatives. Donc, éducation à l'environnement, éducation pédagogique, éducation Montessori, etc., etc. Et de découvrir ce qui a été vraiment le plus frappant et ce qui a mis beaucoup de clarté dans ma relation à mon enfant, notamment, ça a été de distinguer ce que c'est que éduquer et d'apprendre. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et si je peux... faire un peu de lumière avec de la réflexion avec vous ce soir, c'est un grand plaisir.
Eh ben, avec grand plaisir, justement. Alors, quelle différence, toi, tu fais entre éduquer et apprendre ?
Bon, du coup, éduquer, ça n'a pas toujours existé, mais si on prend juste la racine, ça vient de éducare, ça vient de, comme aqueduc, ça vient de conduire. Donc, dans éduquer, il y a quelqu'un qui conduit un autre, et généralement, on rajoute pour son bien. Donc là, on va pas du tout remettre en question ça, parce qu'effectivement... Je suis tout à fait convaincue de la bonne volonté des personnes qui souhaitent éduquer. Le souci, c'est qu'on ne va pas vraiment se poser la question de ce qui se passe dans la relation d'éduquer. On va dire éduquer à l'environnement. Donc ça pourrait être très chouette. Éduquer au racisme, ça serait peut-être moins chouette. Donc là, on voit que dans éduquer, déjà, ce n'est pas l'éducation en soi qui serait intéressante, puisqu'on peut éduquer et conduire quelqu'un à n'importe quoi. Donc là, en fait, nous, on va s'intéresser à cette histoire de conduire quelqu'un. Donc il y a un éducateur et un éduqué, un teur et un tué. Et on va pouvoir voir dans colonisateur, colonisé. Et on voit bien qu'en fait, il y a une différence entre les deux. Il y a une asymétrie qui est vraiment liée à la racine même de cette relation, en fait. C'est de cette posture.
C'est clairement une relation dominant-soumis, quoi.
Voilà. Alors souvent, on va dire, mais j'éduque pas, j'instruis. Bon voilà, on retrouve un peu la même racine dans instruire. Et on va confondre avec ce que c'est que enseigner. Enseigner, ça vient notamment, il y a plusieurs sens, mais ça vient, nous on aime bien le sens de l'enseigne. L'enseigne qui me renseigne et qui me montre. Et en cela, en fait, nous sommes tous des enseignants. À partir du moment où je montre, je montre et ce que j'enseigne... au-delà des matières que je connais, c'est ce que je suis. Voilà, donc enseigner, nous sommes tous enseignants. Donc éduquer, je conduis quelqu'un, alors pour son bien, on l'a vu ensemble, malgré lui. Et souvent on dit, je vais t'éduquer à apprendre. Alors que dans apprendre, c'est une dynamique totalement différente. Autant dans éduquer, j'agissais sur l'autre, autant apprendre, c'est moi qui apprends. Je prends avec moi, en fait. J'incorpore, je comprends. apprendre, plus quelqu'un va essayer de m'éduquer. Des fois, ça m'empêche d'apprendre, au contraire. C'est un mouvement de vie qui est totalement inné. On n'apprend pas à apprendre. C'est comme respirer. Je nais avec toutes les facultés. Et c'est quelque chose de merveilleux que j'ai compris là avec ces recherches. Je suis, en tant qu'être humain, tout à fait outillée pour vivre une belle vie et être heureux. J'ai rien à enlever, rien à gâcher. J'ai cette capacité en fait d'apprendre qui me permet de m'orienter et de survivre à mon environnement en permanence. Donc si je suis éduquée, bah, je vais apprendre à survivre aussi à l'éducation. C'est ce qui permet d'être en vie après tout ce que j'ai vécu, puisque je suis née d'un monde de l'éducation. Donc finalement, juste en faisant cette lumière, j'ai bien vu qu'au lieu d'agir sur l'autre, peut-être la posture la plus intéressante, ça serait d'agir sur moi, de faire ce qui me semble juste, ou alors d'agir sur le milieu qui entoure la personne qui est autour de moi, et de lui proposer ce qui me semble le plus juste. Et là, avec les colibris, je pense que vous avez déjà fait tous des choix, enfin, vous avez fait des choix de vie et des choix de quotidien qui présentent un milieu qui vous semble juste. Donc voilà, ça me semble plus approprié. Sinon, je vais tout de suite tomber dans une espèce de totalitarisme. Je vais t'éduquer à l'anarchie. Je vais t'éduquer à la danse classique. Bon, voilà, c'est... On est
Et où on retrouve le schéma de parents qui peuvent projeter sur leurs enfants des rêves et vouloir les inciter à aller dans la direction où eux, parfois sont allés ou parfois ne sont pas allés, ou n'ont pas réussi à aller, etc. Donc moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, en fait, c'est que apprendre, c'est quelque chose d'inné. C'est simplement s'adapter à la vie qui nous entoure et à toutes les circonstances et conditions qui nous entourent.
Oui. Par contre, j'apprends pas seule. Je suis pas dans ma grotte, complètement déconnectée du milieu. J'apprends du monde et des autres, mais c'est moi qui apprends. Et la posture est complètement différente. Ça veut pas dire je vais pas m'orienter vers un maître. Si je décide que par exemple Daniel est beaucoup plus formé et plus compétent en informatique, je peux me diriger vers Daniel et lui demander des renseignements par rapport à. Je le désigne comme mon maître. Mais par contre, s'il commence à me donner des conseils par rapport à mon mariage, je pourrais me dire que là, ça suffit la relation. Voilà, c'est moi qui décide.
C'est pas ce que tu es venu lui demander.
Voilà, exactement.
Donc c'est vraiment se réapproprier son propre chemin d'apprentissage et décider par soi-même ce que l'on a envie d'apprendre et vers qui on va aller se tourner peut-être pour l'apprendre.
Tout à fait.
Can't I behind. Be where trouble melts like a lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh, why can't
écoutez le chant des colibris, et c'était Israël Is Kamakawiwo. Oui, il faut s'accrocher pour prononcer son nom jusqu'au bout, mais je tenais à le faire pour rendre hommage à cette magnifique chanson Over the Rainbow, qui nous invite à créer un monde en paix. Alors, cette paix, pour la construire, ça commence dès l'enfance. Si on réfléchissait un peu au rapport de force qu'il y a dans l'éducation, et si à nos enfants, on leur fichait enfin la paix ? Pour en parler, nous sommes avec Minou Monta et Daniel Julien du groupe de réflexion pour l'enfance et l'éducation de Jean-Pierre Lepry.
J'aimerais faire ce petit parallèle, cette petite bulle avec vous, parce que moi j'ai été à l'école. Qu'est-ce que j'apprends en fait quand je suis dans un espace contraint, dans un temps contraint, un voisinage contraint et une pensée contrainte ?
Waouh !
Donc là, j'apprends, alors certes...
Certainement pas la liberté.
Ouais. Ben, j'apprends à survivre à ça.
J'apprends à survivre, ouais.
Mais du coup, j'apprends à être contraint, en fait. Mmh. C'est-à-dire que dans... Malheureusement, ça me fait vraiment mal au cœur. Je remets pas du tout en doute les bonnes volontés des personnes qui travaillent dans l'éducation. Mais c'est qu'en fait, toute la structure qui est mise en place, sous couvert d'élever les personnes qui y sont... leur propose tout un cadre qui permet de maintenir des histoires de pouvoir, en fait. 148 milliards, alors je ne sais pas si c'est de 2018, la somme dépensée autour de l'éducation en France. C'est pas rien. C'est un des plus gros budgets. Donc après, ça me permet de voir quand je rentre dans... Voilà, je nais au monde, dans un monde d'éducation... Et je vais passer plus de 10 ans dans cette contrainte-là. Donc j'apprends le manque, j'apprends la peur, j'apprends la dépendance.
L'obéissance, la soumission, compétition.
La compétition qui me prépare en fait à intégrer ma place dans la pyramide. Et je ne suis pas dans la théorie du complot. L'histoire, ce n'est vraiment pas de voir où sont les méchants, où sont les gentils. Mmh. C'est plus comme une espèce de machine qui s'emballe.
C'est ça, et dont plus personne, finalement, ne peut... Ça a dépassé un peu les créateurs et on ne sait plus trop comment arrêter le truc. Les profs eux-mêmes sont complètement dépassés et sont bien souvent tiraillés entre leurs envies... leurs élans et puis ce que le système les empêche de faire avec tout un système de contrôle. On inspecte les profs, on contrôle les inspecteurs, on contrôle etc. etc. C'est une pyramide comme ça infernale où c'est très compliqué aussi de pouvoir suivre l'élan du cœur, l'élan du bon sens, l'élan de...
Et ce qui est proposé en fait, ce sont des réformes, donc des reformes.
C'est juste changer la forme, quoi.
Voilà. Et en fait, ça n'a pas toujours existé.
Ah, c'est ça qui est intéressant de découvrir.
Donc ça n'a pas toujours existé. Le mot éducation, il arrive en France autour de 1500. Et on éduque les vers à soi. Donc les éduque parce qu'en fait, on les élève, on les nourrit. Il y a une tournure un peu spéciale avec Rousseau. Et là, ça va être l'enfant. Avec Rousseau, on va distinguer l'enfant des autres humains. Et là, le focus, en fait, sur cette catégorie de personnes prend une place assez importante. C'est celui qui n'a pas la parole, l'infance, hein, ça vient de là.
L'étymologie, et, donc, voilà. D'enfant, infance, c'est celui qui n'a pas la parole.
Et donc, en 1700, on va décider qu'il faut agir d'une manière différente sur cet individu. Parce qu'il n'est pas fini, parce qu'il est vulnérable, parce qu'il est malléable à ce moment-là de la vie.
Et il faut attendre 1880 pour qu'en fait on généralise l'éducation nationale. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas comme ça au démarrage. L'instruction publique.
Et ça a été un choix d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait d'autres formes.
Tu veux revenir dessus, Daniel ?
Alors là, c'est de mémoire.
Oui, enfin, de mémoire, c'est très bien.
Bail, hein. En fait, il y avait deux autres formes qui étaient soumises à choix,
ouais.
Puisque le choix de la forme de ce qu'allait être l'instruction publique, donc la forme qu'on connaît actuellement, avec une classe, un maître.
Quelles étaient les autres formes qui avaient été proposées ?
Alors voilà, précédemment, en fait, il y avait une forme qui pouvait être communautaire, avec effectivement un enseignant, mais il pouvait y avoir 100, 120 élèves dans la même grande salle. Et il y avait des répétiteurs, en fait. Il y avait des interactions. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, donc les jeunes, on va dire, qui avaient compris une notion, allaient essayer de l'expliquer à d'autres qui ne l'avaient pas compris. Mm-hmm. Quand il manquait de ressources, ils retournaient aller voir le seul enseignant qu'il y avait. Lui, il donnait des ressources, hop, ça repartait. Et donc, c'était réticulaire comme fonctionnement.
Ça veut dire quoi ?
En réseau, en
D'accord.
fait. C'est une forme de réseau qu'il y a, imaginons, 100, 120 personnes ici qui viennent pour apprendre des choses sur le fonctionnement d'une cellule. Mm. Il y a une seule personne qui sait comment ça marche. Les autres, elles sont là pour découvrir. Mais il y a des gens qui vont comprendre très vite, qui ont déjà des notions. Donc, rapidement, c'est un petit peu comme le réseau Internet. Donc, il y avait cette chose-là. Ça a été écarté.
Ça a été écarté.
Ensuite, il y avait aussi une forme où carrément le jeune, il allait chercher dans le village.
C'est ça. Le jeune, il faisait partie de la communauté. Donc, il était en permanence avec des gens plus âgés et en interaction. Donc, le métier était appris ou la vie était apprise dans la vie. Il n'y a pas spécialement de cadre ni de contrôle en fait, de la personne plus jeune en permanence, de savoir où elle est, etc., de la caser. Le système qui a été retenu, c'est un système militaire, en fait, puisqu'à ce moment-là, on a besoin de s'armer et d'avoir des personnes dociles aussi, en imitation des Prussiens.
Oui, c'est Jules Ferry, en fait. Hein. Donc, le point de repère, effectivement, ça a été là. Mais quelque chose qui est important, il y a l'aspect militaire. On avait aussi la révolution industrielle, hein, la première révolution industrielle. On demandait à des gens qui venaient de la campagne, ça a été l'exode rural, hein. On avait besoin de main-d'œuvre et donc cette main-d'œuvre ne pouvait venir que du milieu rural. Et ces personnes, en fait, il fallait qu'elles sachent compter et lire les instructions,
lire
l'heure. Parce qu'elles n'étaient pas habituées à lire l'heure. Hein. Il y avait le clocher dans le village et puis ça suffisait pour marquer le début de la journée, la fin de la journée. Et en fait, compter, c'est pas pareil que calculer.
C'est-à-dire ?
Eh bien, en fait, quand on compte, on énumère en fait le nombre d'objets qu'il y a sur une table. Quand on calcule, on prévoit. C'est-à-dire qu'on va utiliser le fait qu'on sait compter pour articuler différents comptes et avoir une stratégie. Et alors, ce qui est intéressant, et là, tu me rappelleras, Minou, quand il y a eu ces choix qui ont été faits en assemblée, à l'Assemblée nationale.
Okay.
Ce qui a été dit, c'est « Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait, les nôtres comprendront. »
J'ai pas compris, là, pour le coup.
C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, la bourgeoisie, elle a peur que le peuple puisse avoir accès, en fait, à beaucoup livres aussi, au savoir. Et du coup, qu'il y ait un renversement au niveau du pouvoir. Et on a trouvé des textes qui sont tout à fait consultables, où il dit « Ne vous inquiétez pas ». Tandis qu'ils s'évertueront dans les méthodes de lecture, les méthodes d'apprentissage, de calcul, etc., les nôtres comprendront. Du coup, il y avait... c'est assez clair.
D'accord.
Oui, mais au-delà de l'historique, ça n'a pas toujours existé au niveau des continents.
C'est ça. Donc c'est intéressant de voir des exemples d'endroits dans le monde ou d'époques où il n'y a pas eu ce système, où il n'y a pas de système comme ça d'éducation.
Alors du coup, il me vient l'idée d'une peuplade, on va dire, les Nahuatl, qui sont au Mexique. Et au Mexique, ça n'existe pas le mot éducation, en fait. Et du coup, le mot est l'enfant derrière. C'est-à-dire qu'au pire, alors c'est assez difficile de comprendre ce qui se passe dans d'autres tribus qui ont d'autres langues, puisqu'en fait, les ethnologues et les sociologues qui vont aller étudier, ils utilisent notre langue à nous. Donc là où il n'y a pas forcément d'éducation, ils vont essayer de coller le mot éducation. Donc c'est difficile de comprendre ce qui se passe exactement pour quelqu'un qui a été éduqué.
Ouais.
En tout cas, dans cet endroit, au maximum, ce qu'un adulte peut dire à un enfant, c'est « regarde, regarde bien ». Mais sinon, à aucun moment, il interfère en lui disant « tu devrais, il faut que », etc. puisqu'il y a une autre considération, en fait, et une autre confiance entre les individus. Voilà, et ça se passe autour de l'âge de 12 ans. Sinon, jusqu'à 12
Qu'est-ce
ans,
Qu'est-ce qui
en fait,
se passe à 12 ans
La possibilité d'indiquer aux jeunes d'être attentifs à quelque chose.
D'enseigner, là, on est vraiment dans l'enseigne, quoi, qui dit « regarde,
voilà.
regarde ».
Regarde, voilà. Et ensuite, ben, pour donner d'autres exemples, c'est qu'ici et maintenant, on peut parler de la France, puis d'autres pays occidentaux, il y a des personnes qui font le choix de ne pas éduquer leurs enfants au sens que nous avons vu ensemble, un sens assez large, c'est-à-dire de ne pas être en relation de domination de l'individu.
Alors, cette relation de domination, elle est clairement dénoncée dans certains types de rapports, par exemple dans le rapport de genre. On parle de féminisme pour défendre l'égalité des droits des femmes. On peut parler aussi d'agisme pour défendre le droit des enfants qui sont donc dans nos rapports occidentaux soumis par rapport à ceux qui sont plus âgés.
Tout
C'est
à fait.
Ça
À partir du moment où il y a une discrimination, il y a des mouvements qui se mettent en place.
Oui.
Il y a le mouvement antispécisme pour l'égalité des
entre
êtres...
Entre les espèces,
voilà,
entre les êtres vivants.
Et là, il y a le mouvement anti-agiste, justement, qui dénonce le positionnement de domination et d'oppression des adultes sur les mineurs. Et notamment le statut de mineur, est quand même, même le terme de mineur serait peut-être à revoir. Pourquoi il y aurait des mineurs et des majeurs ?
Waouh, ça ouvre vraiment l'esprit de se poser cette question-là. Hein.
Et il y a un ouvrage que j'aime beaucoup de Yves Bonnardel aux éditions Myriadis qui s'appelle « La domination adulte contre l'oppression des mineurs ». Et il parle vraiment, en fait, il donne la parole aussi, et de manière aussi historique, à des mouvements de lutte mineure. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dites mineures qui revendiquent une égalité des droits et de considération. Et notamment... même des auteurs qui vont aller jusqu'à une demande de l'abolition de l'enfance.
Alors, des auteurs mineurs, pour le coup ?
Auteurs mineurs, il y a des journaux, j'ai ramené aussi des petits exemples, oui, qui demandent l'abolition. Ouais.
Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où on en est arrivé là ? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont pionniers dans ce domaine ?
En Allemagne, il y avait un mouvement un peu important, le Kratz, mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ils demandaient l'égalité, le droit notamment de passer le permis de conduire quand ils s'en sentiraient capables. Et au Mexique aussi, des luttes par rapport à avoir le droit de travailler, puisqu'en fait, sous couvert de protéger le mineur, on le met aussi dans une dépendance financière.
Dans une situation
financière
de précarité et de dépendance vis-à-vis de sa famille, etc., qui peut être assez terrible aussi. Ouais.
About the generations, and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them, and think they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place, heal the world. A better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see in this bliss.
distance we cannot feel. There are dreams we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you. People dying, if you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived and will reveal a joyful face. And the world we once believed and will shine again in grace. Then why do we keep strangling when this earth crucify its soul? This world is heavenly. Be God's glory. Make it fly so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. So the nations turn their swords into plowshares. We could get there. If you cared enough for the living, make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying.
D'écouter Michael Jackson avec Heal the World dans le chant des colibris. Alors pour le guérir ce monde, si on tentait de rééquilibrer les rapports de domination, et notamment vis-à-vis des enfants, c'est ce à quoi s'attellent les membres du CREA, dont les réflexions sont disponibles sur le site education-authentique.org. Alors, est-ce que, Daniel, tu veux nous lire ce texte ? Alors, c'est un texte sur ce sujet, justement. Texte de Christiane Rochefort dans les années 70, en 76.
76, voilà. Donc, Christiane Rochefort, le titre de ce livre, le texte, donc, est dans un livre qui s'appelle « Les enfants d'abord ». Vous connaissez certains, peut-être d'entre vous, connaissent l'association qui s'appelle Les Enfants d'abord. En fait, le nom de cette association est hérité du titre
d'accord,
de ce livre.
D'accord, une association de non-scolarisation, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. C'est un livre assez fondateur, qui est assez radical aussi. Voilà. Et donc là, dans ce livre, les enfants écrivent. En l'occurrence, là, ils écrivent à leur mère. Alors, c'est au sens général du terme. « Chère mère,
Allez-vous à la fin comprendre que nous sommes sur le même bateau, vous et nous, que nous avons les mêmes maîtres, que nous sommes attachés à la même corde par les mêmes nœuds. Nous voulons dire vous, toutes les femmes, et nous, tous les enfants. Quand vous mettrez-vous à aimer les enfants? Car non, vous ne les aimez pas. Des enfants, vous parlez en termes de trésor, ou alors de gêne. Vous acceptez l'idée qu'ils sont votre bénédiction, ou bien votre oppression. En tout cas, votre. C'est l'idée du maître que vous acceptez là. Que les enfants sont votre lot. Ainsi, ils vous enchaînent à eux, et ils les enchaînent à vous, d'une laisse, deux esclaves. Et les enfants deviennent des symboles. Petit pénis symbolique, dit le maître, et en réalité, symbole de votre défaite sociale. Enfant charge, enfant revanche, enfant compensation, pas enfant enfant, pas une personne. Croyez-vous qu'on ne le sent pas? On ne se sent pas aimé, on se sent une chose, objet. Non, tu ne m'aimes pas, chère maman. Tu peux le crier sur tous les toits. Ce que tu cries, c'est encore « Au secours !» Tu t'es investi en moi tout entière, vidé en moi. Retourne-toi et regarde qui t'a vidé de toi-même. C'est le même qui veut me tuer. Quand cesserez-vous, mère, de nous utiliser pour compenser votre mutilation, au lieu de regarder en face ce qui vous mutile? Quand cesserez-vous de nous voir comme des prolongements ou des chaînes, pour nous voir comme des êtres qui ont leur vie et s'appartiennent? En nous possédant, vous vous faites avoir, et du même mouvement, vous nous livrez. Finissez avec le faux amour, et commencez le vrai. Détachez-nous. Ne serre pas le nœud, aide-moi à le défaire. Laisse-moi aller, casse ma laisse qui t'entrave avec moi. Débarrasse-toi de ton lot, arme-moi, envoie-moi vivre, laisse aller le tien, et consent à nous aimer, tous, comme des sœurs et des frères en oppression. Fais cause commune, enfin. Nous ne serons pas libres sans votre aide, et vous n'aurez pas votre liberté sans la nôtre. Lorsque, cessant de nous tenir, chacune son lot, son objet trésor à elle, vous nous parlerez de personne à personne, d'opprimés à opprimés. Seulement là, nous pourrons affronter ce qui nous ligote ensemble. Toutes les femmes, tous les enfants, tous ceux qui les aiment comme des personnes. Vous et nous, c'est la même résistance, et l'amour entre nous, seul véritable à présent, c'est l'alliance. Quand on en sera là, on pourra commencer à parler de l'amour. Salut, vos mômes.
Merci beaucoup, Daniel. Et oui, c'est, là on voit bien à quel point la question du retour du féminin accompagne la question de justement la libération de l'enfant, la reconsidération de l'enfant comme un être à part entière qui a droit à la parole, dont la vie est importante. On en est là aujourd'hui, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors souvent il y a une posture qui est un peu confondue, c'est-à-dire que quand on va dire ok, les enfants sont des personnes, mais alors ça veut dire qu'on fait plus rien et c'est eux les rois. Et du coup, on retombe dans le schéma dominant-soumis, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, un coup, c'est les uns qui dominent, un coup, c'est l'autre. Et ça peut aussi se produire dans le couple. C'est-à-dire, si c'est l'homme qui domine, alors je vais reprendre ma revanche, c'est moi qui vais... En fait, là, il s'agit vraiment de trouver autre chose. On a parlé de l'éducation, et donc qui nous invite à rentrer dans le schéma dominant-soumis. On a parlé de l'apprendre, qui serait quelque chose d'inné. Et donc, autour de l'apprendre, en fait, il y aurait une posture... de justesse, voilà, quelque chose d'un peu plus juste, d'égalitaire. Et nous, on a essayé de trouver à travers plusieurs auteurs, hein. Il y a pas que Jean-Pierre Lepri, hein. Oui. Il y a Ivan Illich, il y a Alexander Nell.
Vous présentez un grand éventail d'auteurs, de penseurs, de mouvements différents, de pensées différentes qui finalement convergent tous sur ce point de l'éducation et qui sont à peu près tous d'accord pour dire que là, il y a vraiment un grand chantier qui nous attend.
Oui, et en fait, ce sont des mots qui ne vont pas être très, très différents de ce que vous entendez au niveau de la permaculture, de l'agriculture. Finalement, on se retrouve sur les mêmes chantiers. La posture qui semble la plus juste, ce serait une posture d'autonomie qui est reconnue aussi bien à l'enfant qu'à l'adulte, à la femme, à une personne d'une autre culture, et dans l'interdépendance juste. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait hyper simple de vivre ensemble, conscient de mon autonomie, en interdépendance juste avec ce qui m'entoure, aussi bien l'environnement que les personnes. Mais vaste chantier quand on a été éduqué.
Vaste chantier, puisque du coup, là, maintenant, tout le travail, comme tu le disais tout à l'heure, c'est non pas essayer de faire un travail sur l'autre pour le mener à quelque chose, mais par contre de retourner mon regard vers moi-même et de voir là où mes conditionnements me portent à avoir des actions qui ne sont pas justes en mon âme et conscience, c'est-à-dire que là où je fais des choses contraires à ma conscience ou qui ne me rendent pas totalement...
Qui parle en moi, en fait. Quand je fais quelque chose, qui sait qui le fait ? Quand je mets mon enfant à l'école ou que je le mets surtout pas à l'école, qui sait qui le fait en fait à travers moi ? Qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi ? C'est-à-dire que j'ai une mémoire, comme tous les êtres vivants, et en plus les humains, il paraît qu'ils ont une grande mémoire, ok. Donc j'ai une mémoire, mais j'ai aussi une volonté. Donc qui parle à travers moi et maintenant qu'est-ce que je décide ? Ce qui me semble juste.
Oui, aujourd'hui, on se démène comme on peut avec les conditionnements dont on est porteur, puisqu'effectivement, l'élan premier, vital, l'instinct, on va dire, a été cassé, perverti, détourné par justement toutes ces années d'éducation où on nous a enfermés entre quatre murs, assis sur une chaise de 5 ans à 18 ans. Et aujourd'hui, pour retrouver l'élan vital en nous et retrouver ce qui a du sens et retrouver ce qui est juste de faire avec nos propres enfants, bah, malheureusement, on est bien dépourvu parfois et on se voit avoir des réactions qui sont contraires à ce qu'on aimerait.
Bah, du coup, il n'y a pas de recette, malheureusement, ce soir. Désolée, j'ai rien du tout à amener. Bon, après, je fais quand même...
une réflexion.
Il y a la réflexion, puis je remercie aussi la communication non-violente, parce que c'est aussi un outil qui m'a amené à travailler. Il y a le travail de Cathy Byron, il y a les stages d'autodéfense féministe. Chacun se nourrit. L'histoire, moi, ce que je trouve bien, peut-être que c'est là que je peux être positive, je ne pense pas qu'il y ait de pulsion de mort. De tout ce que je lis, de tout ce que j'ai compris, de toutes ces réflexions et ces rencontres, il y a plutôt une énorme pulsion de vie et qui est empêchée. Voilà.
C'est ça.
Et donc, le tout, c'est à chaque moment, c'est quand j'agis, est-ce que je contribue à la vie ou est-ce que je l'empêche ?
Voilà. Oui, d'où le nom de mon site internet, au service du vivant.
Oui.
Alors, du coup, la question de soutenir la vie, on peut se poser la question aujourd'hui quand on a des enfants. Comment je fais pour soutenir au mieux l'élan de vie qui est en eux, de ne pas trop le contrarier ou le pervertir ? L'école, effectivement, semble, sous bien des aspects, pas vraiment une bonne solution. En même temps, la non-scolarisation, c'est vraiment pas simple non plus à mettre en œuvre dans les vies qu'on mène, etc., sachant qu'on est tous... atomisé, individualisé, qu'on ne vit plus en communauté, qu'on ne vit plus en collectif, qu'il y a plus. Donc, qu'est-ce que je fais de mon enfant toute la journée quand je travaille ou quand je fais autre chose ? Comment il fait pour voir d'autres enfants puisque les autres sont à l'école ? Enfin bref.
Je me débrouille.
Dis, bah raconte-nous alors. Non, toi, c'est ce que tu fais, c'est le choix que tu as fait.
Ma vie, c'est pas si important. Bah, après, ça peut illustrer. En fait, j'essaye de faire ce qui me semble le plus juste. Mais je pense que si je me remémore, moi, ce qui me semble juste, c'est quand une personne, elle m'explique aussi ses choix. C'est-à-dire que ce que je peux dire à mon enfant ou à la personne avec qui je vis, c'est j'ai conscience que c'est pas le top. Je suis à la recherche d'une solution. On peut peut-être la trouver ensemble. C'est pas du tout la même chose que d'aller à l'école parce que c'est comme ça.
Et oui, et parce que tous les enfants y vont.
Voilà.
Ah bah bravo. On va pas changer le monde avec ça.
La posture est totalement différente. J'ai l'impression que c'est vraiment voilà, c'est une posture interne. Donc
ce que j'entends dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a aussi une posture à un moment donné de grande humilité finalement de l'adulte face à l'enfant, d'être aussi capable de dire bah écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qui est le mieux. Je sens bien que là, c'est pas le top, c'est pas l'idéal. Mais pour l'instant, j'ai pas autre chose à proposer vraiment. On peut y réfléchir ensemble, comme tu dis. On peut essayer de trouver des idées.
Mais ça suppose une chose énorme, c'est ça suppose que je sois assez nourrie. Parce que sinon, je vais focaliser sur mon enfant et je vais vouloir pour lui mon propre bonheur. Donc en fait, si j'ai envie qu'il rencontre des gens, si j'ai envie qu'il s'instruise, c'est qui a envie ? En fait, c'est bien moi qui ai envie. Donc peut-être que de faire une checklist avec tout ce que j'ai envie et de me le donner déjà en premier, et ben après, je pourrais peut-être être plus à l'écoute de ce que l'autre a vraiment envie.
Ouais.
Mais ça marche à tous les coups. Hein. Mmh. Et voilà, les peurs que j'ai, ce sont mes peurs.
Ça, c'est une très, très belle clé que tu viens de donner là. C'est la question de la projection. Essayer de devenir conscient des projections qu'on fait sur nos enfants pour au moins les libérer d'une partie de ces lourdes projections qui les enferment énormément. Mmh. Mmh. Donc, le débat entre école et non-scolarisation, pas plus de choses à dire là-dessus ou...
Il y a des familles qui choisissent voilà, la non-scolarisation et effectivement c'est pas simple, il y a des associations qui peuvent aider, il y a des groupements, internet permet vraiment de se relier et notamment oui. Et après il y a des très belles initiatives qui se passent aussi bien en ville qu'à la campagne en fait, des mouvements qui se créent mmh. Et là encore j'ai l'impression que là ce qui a l'air de fonctionner le mieux c'est pas des réseaux pour animer les enfants en dehors de l'école. C'est plus des gens qui se mettent à vivre ensemble et à partager enfants et adultes. Mmh, mmh.
Après toutes ces années de lecture, de réflexion sur tous ces sujets, qu'est-ce qui vous semble être les conditions nécessaires justement à un apprentissage libre, à l'apprentissage libre ? Qu'est-ce que vous citeriez comme conditions qui semblent importantes pour ça ? Quand on parle d'apprentissage libre, en fait, on parle de la vie. Hein. Quelles sont les conditions qui favorisent la vie, en gros ? Allez, Daniel, c'est pour toi le micro.
Oui, comme ça, là, brûle pour point, je dirais que à partir du moment où je vais, moi, avec mes peurs, dire aux jeunes ce qu'il faut qu'ils fassent ou ne fassent pas par rapport à mes peurs à moi,
ça va.
Personnel, il y a un problème.
Ça va c'est-à-dire pas qu'en fait,
et d'ailleurs, il ne va pas le comprendre, ouais. Parce que ce n'est pas ses peurs à lui. Mm. Donc, comment ça peut fonctionner ? Alors, soit par gentillesse, il va le faire une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, en réalité, c'est...
Mais alors, les conditions positives, alors ça, voilà. C'est sûr que ça ne va pas marcher. Alors, par contre, les conditions positives qui permettent, voilà. Justement.
Alors, qui permettent. Moi, il me semble que, donc on l'a vu, on apprend... à vivre en fait en fonction du milieu dans lequel on est. Mmh. Donc du coup, si en tant que jeune, je suis en contact avec la vraie vie comme elle est en réalité, mmh. Il me semble que ça va être plus riche pour moi, ça va me nourrir, okay. Et je vais pouvoir agir et réagir à mon environnement sans qu'il y ait de distorsion, parce qu'il n'y aura pas d'écran entre...
Tout à fait.
Il n'y aura pas de quelque chose qui va déformer.
J'en profite pour parler de André Stern qui a écrit le livre « Et je ne suis jamais allé à l'école », un monsieur de 42 ans talentueux avec plein de cordes à son arc qui effectivement n'est jamais allé à l'école et qui du coup en a profité pour apprendre la musique, la peinture, la danse, la mise en scène théâtrale, la lutherie, etc. etc. Et qu'est-ce que je voulais dire sur lui ? Bah, du coup, ça m'est sorti de l'esprit.
Et si je, par rapport à apprendre, de toute façon, j'apprends à nager en nageant. Et du coup, je me dis, si moi j'ai envie que mon jeune ou la personne à qui je vis, elle sache lire, ben, au moins j'ai des livres chez moi. Ça me semble, voilà. En fait, je lui propose, il saura lire parce qu'il y a des gens qui lisent autour. Il saura ouais. Échanger parce qu'il y a des échanges autour.
Créer un environnement qui soit nourricier, qui soit propice en fait, à nourrir les curiosités.
Ce qui me semble central à comprendre, en fait, que ce soit pour les apprentissages de la lecture, du calcul, enfin, l'apprentissage de la vie en général, c'est que le bébé, l'enfant le plus jeune qu'on puisse trouver, et peut-être même avant même qu'il vienne au monde, le cerveau cherche du sens. Tout le temps, mmh. Tout le temps, tout le temps. On est tous en train, même quand on est âgé, en train de chercher du sens. À partir du moment où on ne trouve pas le sens de quelque chose, soit on évacue, soit on reste là et on se dit « Merde, qu'est-ce qui se passe là ?» Et voilà, on a tous les capacités d'apprendre à vivre.
Du coup, je vais rebondir sur ça parce que c'est très intéressant et ça me permet de finir avec la question d'André Stern, ce que j'avais en tête tout à l'heure. C'est un exemple. Quand il était petit, il se questionnait sur l'agriculture. Ils avaient dans la famille un agriculteur et ben ils ont envoyé le petit de je sais plus quel âge, 12 ans, faire les moissons. Et c'est lui qui a fait les moissons au volant du tracteur, etc. Quoi de mieux pour un enfant pour répondre justement à cette quête de sens ? C'est quoi l'agriculture ? Eh ben vas-y mon fils, on connaît un agriculteur, on va t'envoyer pour les moissons et tu vas voir ce que c'est que l'agriculture. Et lui-même, maintenant qui est papa, qui a donc 42 ans et qui est papa à son tour, je disais que son fils, son petit garçon de 5 ans, passionné de camions, voyait les camions poubelles dans la rue, et ils ont osé descendre de l'immeuble et de dire « Est-ce qu'on peut monter avec vous ? Mon fils rêve de voir comment c'est. » Et ils ont pris le gamin dans le camion poubelle. Vous imaginez la joie que ça peut être pour les éboueurs à un moment donné d'avoir un petit garçon de 5 ans qui ose franchir le mur, descendre, et un papa qui dit « Oui, vas-y mon fils, emmenez-le, allez-y, faites-lui faire un tour. » À un moment donné, là, on casse toutes les barrières, tous les, justement, les a priori, les « ça se fait pas », les « c'est pas possible », les « on peut pas », les... et on ose vivre. Et on ose vivre et on répond à cette quête de sens naturelle chez les enfants. Le camion, j'ai envie d'aller dedans. Est-ce que je peux y aller ? Bah oui, allons-y, allons voir, essayons. Voilà. On arrive à la fin de notre émission. J'aimerais bien quand même que vous nous donniez les coordonnées si on veut en savoir plus en ce qui concerne le CREA, donc le Cercle de Réflexion pour une Éducation Authentique, créé par Jean-Pierre Lepris, et le GREA, le Groupe de Réflexion pour Éduquer et Apprendre.
Suréduquer et Apprendre. Du coup, bah, c'est grealavie.org.
grealavie.org.
Voilà.
Okay.
Et du coup, sur le site, vous trouverez une info kiosque assez riche, en fait, qui est à télécharger en PDF, il n'y a pas de souci. Plein de références d'ouvrages aussi qui m'ont aidé, en tout cas, et qui nous ont aidé à faire le point, le clair, sur cette réflexion. Il y a aussi 150 vidéos qui reprennent des morceaux de rencontres annuelles qu'on a eues, donc sur différentes thématiques. Et aussi...
Où on va pouvoir te retrouver d'ailleurs en vidéo.
Hein oui, voilà. Notamment. Et il y a aussi les lettres, les Léa, en fait, les lettres, les newsletters. Et pour moi, ça a été vraiment un super outil parce qu'il y a une partie de réflexion digérée, on va dire, notamment de Jean-Pierre Lepris. Et après, des morceaux de texte intégral de différents auteurs. Et là, on peut se nourrir avec plein de possibilités d'aller chercher sur Internet.
Eh ben, je vous remercie beaucoup, Minou, Monta et Daniel Julien, d'être venus nous parler de tout ça ici à la boutique Solidaire.
Merci beaucoup.
Merci, merci à vous. Merci. À la prochaine.
En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici. Sans dire la fin de l'incendie, l'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le troisième jeudi du mois, à la boutique Solidaire, au 5 Faubourg de Rochebelle, à Alès. Toutes les émissions sont en podcast sur le site au service du vivant.info.
De quoi faire un paradis. En ma tête, il y a des cœurs.